14h, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit pour mettre en avant vos projets et vos initiatives parce que c'est vous, vous êtes les acteurs de ce changement et on le voit hein, chaque jour à son échelle, hein, chacun a la capacité d'améliorer le monde après cette crise inédite. À mes côtés pour en parler aujourd'hui, Élise Dangean du service économique d'Europe 1. Bonjour Élise.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Et notre coach de la semaine, Pierre Pézziardi. Bonjour Pierre.
Bonjour Elisabeth, bonjour à tous.
Vous êtes entrepreneur du numérique, cofondateur de l'initiative agricole La Ceinture Verte. Alors on le voit chaque jour dans La France Bouge, il y a ceux qui osent, hein, qui ont l'audace de se lancer, même si la période est compliquée. Et c'est ce qu'a fait notre invité qui a imaginé son site pendant le confinement et qu'il a lancé il y a à peine quelques semaines. Hein. C'était le 8 juin et vous êtes du côté de Bordeaux. Bonjour Alban Liesenborgs.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de l'épicier Vrac. Il s'agit d'un service de livraison de produits 100% bio dans des contenants réutilisables. Et le tout, tout est transporté par vélo cargo. Comment avez-vous eu l'idée? Comment ça marche? Quel est votre modèle économique? Et bien, comme chaque jour, vous allez, comme chaque entrepreneur, vous allez tout nous dire avec votre pitch. C'est parti, vous avez 1 minute 30.
Très bien. Ben, merci Elisabeth. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Bria Savarin.
Ah oui, j'adore.
C'est pas qu'un fromage, en fait. C'est aussi une personnalité assez connue qui était magistrat, gastronome, et qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Et c'est vrai qu'on a tous voulu améliorer notre alimentation pour des raisons de santé, des préoccupations écologiques, mais on se heurte souvent à la dure réalité. C'est compliqué, c'est souvent cher, et puis surtout, on a la flemme. Nous, avec l'épicier Vrac, on a voulu proposer une solution facile pour permettre à tous d'accéder à une offre complète de produits en vrac, de qualité et du coup de minimiser l'impact de notre consommation sur la planète. Concrètement, l'épicier Vrac, c'est plus de 150 produits du quotidien. Alors on a du quinoa des Landes, on a du savon solide bordelais, on a des herbes aromatiques du Périgord ou des biscuits du Lot-et-Garonne. Donc comme vous le voyez, la majorité des produits sont locaux. Ils sont toujours bio, on est à 100% bio, et c'est livré chez vous en vélo, sur l'agglomération bordelaise, et bientôt en véhicule propre sur toute la Gironde. Tout ça, c'est livré dans des bocaux en verre, des sacs en coton ou des sacs en papier craft. C'est un projet tout neuf, puisqu'il a vu le jour pendant le confinement. J'ai appris quelques rudiments de code et j'ai lancé mon site. Et les premières livraisons ont lieu en ce moment même. Là, je vous appelle, je suis à côté de mon vélo. J'ai fait une première livraison ce matin. Et si vous commandez avant ce soir minuit, vous bénéficiez de 10% de remise avec le code Europe 1 sur l'épicerac.fr.
Europe 1, on va mettre autre chose parce que là, ça fait un petit peu pub quand même. Merci en tout cas, merci pour votre pitch, merci à vous. C'est bien, déjà bravo, hein, Pierre, vous êtes d'accord, Pierre-Élise, Alban a lancé son service de livraison 100% bio pendant le confinement. Il faut le faire quand même. Hein.
On dit bravo, et parce qu'il y a une vraie filière des circuits courts à imaginer. On s'en rend pas compte, mais toute notre agriculture est tournée vers les prix de marché, l'export. Et en fait, il n'y a pas de filière de circuit court. Et là, on voit bien qu'il faut inventer un site, il faut inventer des moyens de distribution.
Il a pris le code pendant le confinement.
Il a pris le code.
C'est incroyable.
Et donc, c'est ces nouveaux opérateurs qui arrivent après la génération des AMAP. Hein, il ne faut pas oublier les AMAP. Et donc, est-ce que tu fais du frais, toi? Est-ce que tu fais du, ou est-ce que tu fais que du conditionné, finalement?
Alors, pour l'instant, on fait uniquement du sec, pour des raisons uniquement logistiques. Voilà, je n'ai pas d'entrepôt frigorifique, donc c'est un peu compliqué. Et ni de vélo cargo réfrigéré. Mais c'est un projet qu'on a à l'avenir. Effectivement, j'aimerais bien faire du frais parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi en frais au niveau local.
D'accord. Et est-ce que tu penses que finalement ton mode de distribution et le fait de disposer un catalogue un peu plus large va permettre d'élargir la clientèle un peu militante, cette première génération de clientèle des AMAP qui est finalement une clientèle militante, ton système là? Tu penses qu'il va permettre d'atteindre une clientèle, un second cercle de clientèle?
Ben j'espère, en tout cas c'est vraiment le projet derrière, c'est de démocratiser l'accès au vrac et au bio, que ça ne soit pas seulement réservé à une élite qui a le temps et les moyens d'aller dans des magasins spécialisés, dans des AMAP. Voilà, je fais moi-même partie d'une AMAP qu'on a créée il y a un an, mais j'aimerais que tout le monde puisse se dire « je veux commander en vrac ». Donc effectivement, plus le catalogue est large, plus ça s'adressera à des populations différentes.
Et cette démocratisation, elle passe par des prix également de marché. Et tu arrives à t'aligner sur des prix qu'on trouverait en grande surface, du fait de tes gains de productivité sur le conditionnement et la livraison?
Alors, vu qu'on est vraiment privilégié du local et du français, parfois, par exemple, sur des pâtes, je ne peux pas concurrencer des pâtes qui sont non françaises. Mais à référence égale, oui, on est très compétitif parce qu'on a vraiment des coûts très bas. On n'a pas de magasin physique à payer. On n'a pas d'employés vendeurs. On n'a pas voilà, tout ce qui gravite autour de la vente en physique. Et les livraisons en vélo, en plus d'être écologiques, sont également très économiques.
Et
on n'a pas d'entretien de véhicule.
Et vous, comment vous vous rémunérez, même si c'est très, très récent, mais vous envisagez de développer quel type de modèle économique?
Alors moi, je ne me rémunère pas pour le moment, bien
pas
sûr, parce que j'ai commencé aujourd'hui les livraisons, pas encore. Exactement. Pour l'instant, moi, je pédale. Mais j'aimerais bien avoir un modèle coopératif, bien sûr, et inclure un volet social au projet.
Et donc, ça donnerait quoi?
Ça donnerait une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Avec des membres qui sont aussi des adhérents.
Des adhérents et que tout le monde puisse y avoir une part. Élise Dangean a une question pour vous. Vous êtes le seul livreur aujourd'hui?
Alors, je suis le seul livreur et je travaille avec ma compagne sur tout ce qui est sourcing et achat. Livreur, pour l'instant, je suis le seul. J'ai des coursiers, il y a énormément de coopératives de coursiers sur Bordeaux qui sont là pour m'aider si jamais j'ai un coup de bourre.
Alors, moi, je trouve que c'est intéressant parce que, à travers votre pitch, on a bien compris, mais à mon sens, il faudrait peut-être mettre en avant davantage le prix, parce que les produits en vrac coûtent jusqu'à quand même 50% moins cher que les produits emballés. Donc, vous êtes en dessous du prix des épiceries que l'on trouve tous partout. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant, qu'il faut vraiment marketer.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. La qualité est là, mais c'est vrai que le prix est aussi très compétitif.
Ouais,
on peut le voir sur mon site. J'ai des choses qui sont vraiment, qui semblent vraiment peu chères pour des produits qui sont locaux
et de qualité.
Pierre.
Là où on s'implante, la ceinture verte, où on remet des légumes autour des agglomérations, on a cette idée, mais je ne sais pas si ce qu'elle vaut, mais c'est pour aller dans le sens d'Elisabeth. Donc, pour redire aux gens, mais en fait, manger bio, local, c'est aussi cher que ce que vous mangez au supermarché. Il faut une preuve, en fait, parce que les gens ne vont pas y croire. Ils n'y croient pas. Parce que le bio, c'est plus cher, par défaut, en tout cas. Donc, il faut en apporter la démonstration. Pour en apporter la démonstration, ce qu'on peut faire, c'est témoigner d'une semaine d'une famille, et avec un ticket de caisse et des repas. Et peut-être que vous, avec vu la taille de votre catalogue, vous pourriez comparer une semaine d'alimentation type chez vous contre une semaine d'alimentation. Alors, hormis les pâtes, vous n'êtes pas compétitif, mais ça devrait normalement pouvoir passer. Et donc, communiquer sur ça, et d'ailleurs, peut-être même vendre des paniers semaine.
Ouais, c'est une bonne idée.
Tout à fait, c'est une excellente idée.
C'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire connaître et vous diversifier voilà, pour pouvoir développer votre épicier, votre service de livraison 100% bio par vélo cargo. Ça s'appelle l'épicier vrac. Pour l'instant, c'est seulement à Bordeaux, mais on espère tous que vous allez vous étendre partout en France. J'imagine que c'est dans vos projets.
Ah, c'est mon plus grand souhait, ça serait super.
Et c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci à vous, Alban Liesenborg, d'être venu nous présenter votre toute jeune start-up, puisqu'elle démarre aujourd'hui. Ça s'appelle l'épicier vrac.
Europe 1.
Restez avec nous. Vous le savez, les jeunes n'ont pas toujours de réseau. Alors, comment les aider à trouver un job ou un stage? Eh bien, Élise Dangean a la solution et on va le découvrir. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est le moment de découvrir la solution du jour qui est aujourd'hui portée par Élise Dangean. Élise, aujourd'hui, c'est une initiative pour offrir du réseau aux jeunes qui n'en ont pas. Et l'objectif, c'est de les aider à trouver un job, un stage, un apprentissage. Et en plus, dans ce contexte si particulier, c'est important d'avoir des billes pour cela.
Absolument. Et cette solution s'appelle Mentor Express. Elle a été lancée en mai dernier sur la base d'un constat assez simple. La crise sanitaire a rendu les entreprises frileuses. Beaucoup d'entre elles ne prennent plus de stagiaires ou d'alternants. La situation est extrêmement tendue pour les étudiants. Et notamment pour les plus défavorisés, ceux qui manquent de réseau. L'association Job IRL, spécialiste de l'orientation des jeunes, s'est donc associée à la fondation Make.org pour créer du mentorat 2.0. L'idée, c'est donc de mettre en relation des professionnels volontaires avec des étudiants qui bénéficient ainsi d'un coaching personnalisé. en quelques clics. Hein, il suffit de s'inscrire sur le réseau social JobIRL pour pouvoir prendre contact avec le ou les professionnels de son choix, tous secteurs confondus. Ça peut alors être le début d'une vraie rencontre professionnelle. Et puis surtout, très concrètement, le professionnel en question peut aider l'étudiant à peaufiner sa candidature, CV, lettre de motivation, entretien d'embauche. C'est donc une ressource très précieuse, vous l'avez dit. Et cette solution, vous avez participé à sa création, Christelle Mélégénin. Vous êtes la présidente de JobIRL. Et d'abord, pourquoi, selon vous, c'était capital de donner un coup de pouce à ces jeunes sans réseau ?
Alors,
Elle est avec nous, elle est en studio. Bonjour.
Bonjour. L'ADN de JobIRL, en effet, c'est de donner du réseau aux jeunes qui n'en ont pas pour s'orienter, pour s'insérer dans la vie active. Et c'est vrai qu'en pleine crise du Covid, on s'est dit qu'il fallait faire plus, puisque d'habitude, on monte aussi dans les quartiers populaires, avec des universités, des lycées professionnels et autres, des ateliers pour aider les jeunes au plus près, pour ceux qui ont le plus besoin de nous. Et là, en plein confinement, c'était impossible de le faire. Et donc, on s'est dit comment les aider, surtout qu'il y avait de moins en moins d'offres de stage, de moins en moins d'offres d'alternance, et qu'après plusieurs mois de confinement, on a tous conscience qu'il faut à tout prix que ces jeunes réussissent leur rentrée scolaire, parce qu'au pire, ils pourront avoir perdu quelques mois de scolarité. Hein, on sait bien, on a jusqu'à 40% de décrochage dans les banlieues, donc c'est très élevé. Mais s'ils réussissent la rentrée, bah ça sera, je dirais, un mauvais souvenir, mais ça passera. Et donc, on s'est dit comment aider les jeunes à trouver le stage pour valider leur formation, parce que c'est parfois indispensable pour valider sa formation, ou l'alternance qui va leur permettre de trouver une nouvelle formation à la rentrée. Et donc, on s'est dit, banco, on va demander plus à nos professionnels de la communauté, surtout qu'il y avait vraiment un élan de solidarité. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai, moi c'était la première fois de ma vie, je dirais, depuis 6 ans d'activité de JobIRL, que j'avais des grands groupes qui me disaient comment on peut faire plus, comment on peut aider plus les jeunes. Et donc on leur a dit, écoutez, si vous êtes prêts, si vous avez du temps, lancez-vous carrément dans la relecture de CV, de lettre de motivation, d'aide aux entretiens, parce qu'en fait, on sait très bien qu'un jeune, souvent il n'a pas le bon vocabulaire, même de son milieu, je dirais, scolaire, il ne sait pas bien toujours de quoi il parle. Je vois hier, j'avais un professionnel qui me disait, là j'ai eu un jeune, il me parlait tout le temps de stratégie. Bon, après un BTS, on ne va pas lui confier la stratégie de notre grand groupe. Donc voilà, c'est aussi remettre les jeunes dans une réalité, mais qui n'est pas du tout négative, mais qui est juste de les mettre dans la bonne posture, à leur bonne place, pour que quand ils arrivent dans un entretien, ils aient toutes leurs chances. Et comme il y a moins d'offres, il faut se donner toutes ces chances.
Ça a été lancé en mai dernier. Est-ce que vous avez de premiers retours ? Est-ce que ça fonctionne bien pour le moment ?
Oui, alors ça fonctionne bien. Il y a déjà 500 membres sur le groupe. Alors tous les jeunes ne rejoignent pas le groupe. Mais on a déjà plus d'un millier de messages entre ces jeunes et ces professionnels. Puis on sait que ça donne lieu à des rencontres, à des échanges par la suite. Parce qu'au début, ça se fait sur notre plateforme. Et puis après, les gens continuent à échanger, je dirais, dans la vraie vie. Donc oui, on a d'excellents retours. On a un professionnel de la BNP qui a fait un beau post en expliquant qu'une jeune avait trouvé un stage grâce à lui. Et on sait qu'il y en a plein d'autres comme ça qui sont en train de se tramer.
Quelles sont les demandes qui reviennent le plus souvent ?
C'est vraiment la relecture de CV, c'est du réseau, parce qu'il y a des milieux où il est quand même difficile de trouver de l'alternance. Et comme on a la chance d'avoir une communauté de professionnels qui est vraiment dans tout secteur, tout métier, ça permet aux jeunes de pouvoir contacter ces professionnels qui parfois même sont sympas, je dirais, envoient dans un groupe concurrent, chez un prestataire ou autre, parce qu'ils savent qu'il y a des offres. Et donc, ça donne des idées aux jeunes. C'est aussi leur donner des idées, parce qu'il y a moins d'offres, mais il y en a quand même.
Peut-être qu'ils ont pensé à quelque chose au départ et ensuite...
Ça les ouvre.
Ça ouvre d'autres perspectives. Élise,
vous parlez des professionnels. Combien y en a-t-il au total de volontaires ?
Alors, sur le groupe, on en a près de 200. Et sur l'ensemble de la plateforme, on a 5500. Donc, ça permet aussi, au-delà de ce groupe CV Lettres, d'aller plus loin, de rencontrer plein de professionnels sur pas mal de secteurs.
Que dit notre coach Pierre Pézière ?
Notre coach, il est ravi.
C'est bien.
Je vous rappelle qu'il a fait 6 ans de start-up dans l'État. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire des services publics plus ouverts, plus participatifs. C'est fantastique, que les auditeurs comprennent bien. C'est que les 7000 personnes dont parle Christelle, ça pourrait être vous. C'est-à-dire vous êtes on est tous des professionnels de quelque chose, de la boulangerie, et donc vous pouvez vous inscrire. Ça veut dire que vous pouvez participer à la lutte contre l'échec scolaire, à un service public de l'orientation. Et je pense que le service public de demain, il a probablement à voir avec vos manières de faire. Et justement, je voulais vous questionner sur vos rapports justement avec l'État. Comment ça fonctionne ? Finalement, parce que vous êtes dans une zone de monopole.
Oui. Il y a quelques acteurs privés de l'orientation quand même, qui marchent bien. Mm. Mais c'est vrai que ce qu'il y a, c'est qu'en France, l'école est quand même massivement publique, on va dire. On a un système éducatif qui est très tourné vers l'État. Et donc, ce qui est une bonne chose, qui aussi a parfois ses freins. Et donc, des acteurs comme nous, qui sont des initiatives privées. Hein. Moi, je suis à l'origine de Job IRL. Un jour, j'ai eu cette idée. Et puis, 6 ans après, ça existe. Et on est des dizaines de milliers de membres. Donc, aujourd'hui, par exemple, on a une convention nationale avec le ministère de l'Éducation nationale, ce qui nous permet de rentrer dans les établissements scolaires. Parce que moi, je suis persuadée que pour faire de l'égalité des chances, il faut être au plus près des jeunes qui ont besoin de nous.
Il faut aller à leur rencontre. On va en parler dans le dossier dans quelques instants.
Voilà, exactement.
Élise, je vous avais une dernière question.
Oui, une dernière question, puisqu'en fait, l'initiative prend fin le 25 juillet. Pourquoi cette date et pourquoi pas prolonger justement l'opération?
Alors, bonne nouvelle, c'est ce qu'on a décidé, puisque ça marche. C'est vrai qu'au départ, on avait dit...
C'était post-crise au départ.
Exactement.
Hein, c'était on réagit à une situation d'urgence.
Exactement, on a lancé ça. Moi, je peux vous dire, j'étais confinée, j'étais dans la chambre de mon fils en conf-call avec Make.org, avec Vivatech, BNP et autres, les partenaires qui nous ont soutenus dans cette aventure. Et donc, depuis, on a décidé qu'on allait poursuivre, puisque ça marche très bien, et même puisqu'on est en train de refondre toute notre plateforme, puisqu'on va sortir une nouvelle plateforme à la rentrée, on est même en train d'imaginer que ça devienne un vrai service de Job IRL, puisque c'est quand même complètement inédit de dire aux jeunes, dépasser le tuto et puis le conseil sur un média qui vous explique comment faire un lettre et un CV, mais d'avoir le pro d'un grand groupe qui va, pendant quelques heures, vous aider dans votre candidature. Quoi.
Donc ça va se poursuivre, donc tant mieux pour toutes celles et ceux qui en ont besoin, ça s'appelle Mentor Express, et donc c'est le coup de pouce donné aux étudiants par des professionnels qui se mobilisent, et vous venez nous l'expliquer, Christelle Mélé-Génin, pour les accompagner dans leur démarche de recherche, de stage, d'alternance et d'orientation. Merci à vous.
Europe 1.
Plus de 40% de décrochage dans les banlieues pendant le confinement, on vient de le dire. Alors comment favoriser l'égalité des chances? Quelles sont les solutions? On en parle, il y en a, et c'est ça, la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Dans les quartiers où le taux de chômage est élevé, certains ont des idées, mais du projet à la réalité, il y a parfois tout un monde auquel ils n'ont pas accès. Ainsi, un bailleur social et une association ont eu l'idée de se réunir et d'accompagner l'entrepreneuriat directement au cœur des quartiers populaires. Bonjour Fabrice Le Sachet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Érigère. Oui. Vous êtes le troisième bailleur social de l'Île-de-France. Et vous avez eu cette bonne idée, cette merveilleuse idée de co-construire un projet avec une association qui s'appelle Les Déterminés, une association qui a l'habitude d'accompagner les jeunes à entreprendre et autres. Et vous avez mis en place là, ce mois-ci, là, c'est maintenant à Cergy, un accélérateur pour pouvoir les aider à monter leur projet et à vivre leur rêve. Racontez-nous.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de mixité sociale et d'intégration dans notre pays, et c'est très important. Mais nous, on pense qu'il faut parler beaucoup plus de mixité économique, parce que l'intégration, elle se passe également par l'accès au marché du travail. Et on a rencontré Moussa, on a
Moussa,
observé...
Moussa, c'est donc le président des Déterminés de l'association avec laquelle vous êtes associé.
Exactement, et cette association, en fait, a des programmes de formation pour aider... des jeunes qui souhaitent entreprendre à le faire avec des outils, parce qu'on ne peut pas entreprendre sans avoir de notions de comptabilité, sans avoir de notions de fiscalité, etc. Donc, ils aident ces entrepreneurs. Ils les aident également, ces jeunes, à se former à différents métiers, au métier de l'hôtellerie, donc l'employabilité. Et donc, ça nous intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on a 15 500 logements en Île-de-France et que notre rôle, c'est de loger des salariés. Et de temps en temps, ces salariés, ils souhaitent entreprendre. Et donc, grâce à ces espaces, ils vont avoir un accompagnement. Ils souhaitent se reconvertir. On sait tous qu'on ne va pas exercer le même métier toute notre vie. Donc, on a des besoins de reconversion. Et donc, on donne accès à nos locataires aux espaces, aux accélérateurs des déterminés. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant, puisque Moussa, lui, il peut se sédentariser, avoir des lieux où se passent ses formations. Et nous, on offre à 15 500 familles l'accès à ces espaces. Également pour le télétravail, parce que qui peut dire qu'on peut télétravailler efficacement de chez soi? C'est compliqué. Lorsqu'on est dans des petits espaces, lorsqu'il y a du bruit, la famille autour, on ne peut pas se concentrer. Donc nous, on offre des espaces optimisés pour que les gens puissent travailler avec qualité.
Mais vous les avez identifiés, ces personnes? Parce que vous parlez de 15 000 logements, mais c'est qui? Vous savez qui c'est? Qui a besoin de quoi?
Ah oui, nos locataires, en tout cas, on les connaît.
Oui, vous les connaissez, mais
c'est une nouvelle
ils n'ont pas tous besoin d'entreprendre.
Mais c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'en créant cette offre, on va peut-être susciter
une envie. Vous avez donné des idées.
On va donner des idées. on va permettre à certaines personnes de se libérer, de se dire que peut-être l'entrepreneuriat, ça peut être aussi pour eux. Ce n'est pas réservé à une élite. Évidemment, il faut être accompagné. C'est pour ça qu'on l'organise. Mais ce n'est pas réservé à une élite.
Oui, et vous avez raison de le dire, d'autant plus que vous êtes au MEDEF. Hein, donc, vous savez de quoi vous parlez. Et c'est aussi avec cette casquette-là que vous vous êtes dit, on va faire quelque chose pour ces personnes qui n'ont pas forcément accès à l'entrepreneuriat.
Oui, j'ai surtout créé mon entreprise. Hein. Bon, moi, j'ai de la chance. Je viens d'un milieu aisé. Tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas le même bagage. Et donc, il faut en faire plus. Parce que dans ces banlieues, il y a une énergie. Il y a du talent. Et l'avenir de notre pays, il se passe en partie dans ces banlieues. Et on ne peut pas avoir dans ces quartiers des zones où il n'y a pas d'activité économique. Mmh. On ne peut pas avoir que des lieux d'habitation. Mmh. Il faut qu'il y ait de l'activité économique et de l'activité économique endogène. Ça ne peut pas être des gens qui vont investir. Il faut que ça vienne d'eux. Et ils ont cette capacité. Alors, et aujourd'hui, les vrais libéraux, c'est eux. Ils sont en banlieue parce que les rentes constituées, les monopoles, c'est ceux qui ont des situations aujourd'hui acquises. Et c'est en banlieue qu'il y a cette énergie. Pas qu'en banlieue, il y a beaucoup d'endroits dans notre pays,
il faut aller là-bas. Et alors, ils ressemblent à quoi ces locaux enfin, que vous
alors
allez
là, c'est le premier état de Cergy. Un espace de 95 mètres carrés où il y aura des espaces de travail partagés, des lieux pour s'isoler, des espaces pour faire de la formation. On va construire, parce qu'on va commencer avec Cergy, mais on va avoir programme.
Deux autres qui vont ouvrir.
Donc tous les six mois, on va essayer d'en ouvrir un. Et le prochain, c'est un lieu de production partagé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs.
C'est quoi un lieu de production partagé ?
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un Fab Lab. C'est-à-dire que concrètement, il y a plusieurs entrepreneurs qui entreprennent dans le secteur de la restauration. Ils n'ont pas les moyens d'acquérir des cuisines professionnelles. Donc on va créer un espace où nous, on va investir dans une cuisine professionnelle et on va mutualiser ce coût-là pour ces entrepreneurs et ils vont pouvoir accéder à cet espace et ils vont cuisiner dans des conditions d'hygiène bien plus importantes que si c'était chez eux. Ils vont avoir un service plus professionnel, ils vont réduire leurs coûts, ils vont être compétitifs.
Et puis le fait de sortir de chez soi, de rencontrer d'autres personnes,
bien
ça
sûr.
Va créer
de l'émulation.
Peut-être de l'émulation, des associations. Je vous présente notre coach du jour, Pierre Pesiardi, qui a une question à vous poser.
Alors, c'est très réjouissant, effectivement, tout ce que vous faites, ça fait du bien. On voit bien qu'un incubateur, effectivement, ça va au-delà d'un lieu, et vous l'avez bien compris, c'est un écosystème qu'il faut créer, donc il faut qu'il y ait des mentors, il faut qu'il y ait des gens qui réussissent, il faut qu'il y ait des gens qui échouent, il faut qu'on se parle, c'est une dynamique que vous avez, que vous allez, j'espère, réussir. Qu'est-ce qui va différencier finalement, votre initiative par rapport à celle qu'on a vue émerger il y a une dizaine d'années avec Initiative France ou France Active qui se sont lancés sur en disant mais tiens, on peut essayer d'accompagner des initiatives d'entrepreneuriat.
Il y a beaucoup d'initiatives avec les mêmes outils. Après, la vraie différence, c'est les hommes qui le mettent en œuvre. Aujourd'hui, on a Moussa Camara qui
est associé à cette association
déterminée, mais qui est porté par Moussa, qui est quelqu'un de très charismatique, de très reconnu, qui a fait un travail de fond, qui a fait plusieurs promotions. Et donc, qui s'est entouré d'une équipe qui a su fédérer autour de lui.
Et ce
qui
fait la différence, c'est ça. C'est ça qui est important.
De créateurs
notamment.
Potentiels d'entreprise ou de jeunes qui veulent se former à un métier. Hein. Il y a eu des partenariats signés avec des chaînes hôtelières, etc. Donc, c'est Moussa, c'est les gens avec qui il s'est entouré, c'est la façon dont il a structuré les choses. Et ça fait une différence parce qu'il a créé une dynamique. Et donc, nous, on souhaite s'associer à cette dynamique. Pourquoi ? Parce qu'en tant que bailleur social, on a des locaux vacants. On ne peut pas accepter d'avoir des locaux vacants.
Non.
Donc nous, on réhabilite ces locaux, on les met à disposition, c'est dans notre intérêt, on les met en accès à nos résidents. Et puis, j'allais dire que la boucle est bouclée, en fait.
Et le fait nouveau, c'est qu'il y a une communauté. C'est ça qui est fantastique et c'est très, très clair.
Mais c'est surtout aussi que c'est en bas de chez eux.
Voilà.
C'est ça qui est important. Ils n'ont pas le trajet effectué, ils n'ont pas cette fatigue. Toute leur énergie sera déployée sur leur projet, sur la création de peut-être de leur entreprise.
Mais c'est le concept même du logement social. Le logement social, c'est un logement accessible, donc abordable, proche de son lieu de travail. C'est pour ça que Action Logement, on gère 1 million de logements en France. Pour ça qu'on est impliqué dans ce secteur du logement.
Élise,
vous gérez les locaux. Qu'en est-il du matériel ? Est-ce que l'association met à disposition une connexion Wi-Fi, des ordinateurs, ce genre de choses ? Parce qu'avoir des locaux, c'est bien, mais ça nécessite aussi du matériel informatique, par exemple.
Bien sûr, nous, on réhabilite l'espace. Ensuite, l'exploitation, c'est les déterminés qui l'exercent. Et donc, c'est eux qui font l'acquisition de ce matériel. Peut-être que pour le premier site, il y aura une subvention, mais après, il doit y avoir une sorte de modèle économique, même dans le milieu associatif. Il faut qu'il y ait une pérennité des activités.
Élise, justement, on compte plus beaucoup de quartiers prioritaires en France. Vous avez un petit, vous pouvez nous faire un petit état des lieux.
Absolument. Au total, en France, on en compte plus de 1500. Hein. C'est ce qu'on appelle les quartiers prioritaires. Au total, 5 millions de personnes y vivent. Et dans ces quartiers, le chômage peut être presque 3 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est énorme. Selon une étude de l'INSEE qui a été publiée en janvier dernier, c'est très récent, dans les quartiers les plus en difficulté, seul 1 habitant sur 3 a un emploi.
Un habitant sur 3 a un emploi. La suite, c'est quoi, Fabrice Lesachet ? C'est-à-dire qu'ensuite, là, c'est Cergy. Après, ça va être où ?
Alors d'abord, c'est l'Île-de-France, parce que Érigère est implantée en Île-de-France. Mais en fait, c'est un projet pilote pour tout le groupe Action Logement qui est présent dans toute la France. Mm. Donc potentiellement, c'est Toulouse, c'est Brest, c'est Vesoul, c'est Alès, c'est tous les territoires. C'est les quartiers défavorisés, c'est les banlieues, mais c'est aussi des zones qui sont moins défavorisées, qui sont des zones périurbaines. C'est aussi des zones rurales. Il y a besoin d'activités économiques partout. On a besoin d'avoir des villes d'équilibre, des villes à taille humaine. On a besoin de ça dans notre pays et donc on le fera partout en France. Mais pour le moment, il faut commencer quelque part et on a choisi Cergy.
Vous avez choisi Cergy avec l'association Les Déterminés. Et on le voit, hein, les associations, c'est vital dans les quartiers populaires. Et pendant le confinement, on l'a vu, c'était compliqué évidemment de se déplacer puisqu'on était à la maison. Ainsi, une plateforme est née pour que le lien reste intact entre les jeunes et ces associations. Bonjour François Deroux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'association Les Petits Débrouillards et le porte-parole d'un nouveau projet, un projet né pendant le confinement et déployé depuis quelques semaines. Et ce projet, il s'appelle Des blocs.
Oui, tout à fait. Merci pour votre invitation. Donc Des blocs, oui, parce que nous sommes un groupement d'associations qui avons à s'occuper tous les jours d'enfants, donc après l'école, pendant les vacances, les week-ends et le soir. Et donc nous avons été aussi privés de nos enfants dès le mois de mars. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire dans la continuité éducative pour être présent et continuer en fait à les aider, notamment ceux qui vivent dans les quartiers ou dans les milieux ruraux isolés, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Mmh. Et donc on s'est réunis, on a décidé de créer donc une plateforme qui pourrait représenter nos activités à distance.
Donc, représenter une activité à distance sur les plateformes. Ils ont accès comment, cette plateforme ? Parce que tout le monde n'a pas un portable ou un ordinateur.
Alors, cette question du matériel est très importante, mais nous n'étions pas armés pour la résoudre. Mmh. Puisque
à l'époque, mais aujourd'hui. C'est en cours, hein, le déploiement de Des blocs.
Il y a des réseaux, des associations qui sont spécialisées, comme Emmaüs Connect, avec qui on a travaillé et qui ont développé... essayer de combler
toute cette logistique et combler le déficit du matériel
avec la Fédération de la Solidarité. Il y a eu beaucoup de distribution et beaucoup de travail qui a été fait sur la distribution de matériel. Maintenant, on a fait notre plateforme pour ceux qui, évidemment, avaient quand même accès dans la famille au moins. Et donc, on s'est réunis pour ce faire.
Et ce qui est important, c'est que vous l'avez dit, vous êtes réunis avec 17 associations. Donc, tout le monde a répondu présent. Il y a une demande.
Oui. Alors, c'était quand même une caractéristique de cette période, c'est que ça, je n'ai pas forcé, mais ça a permis quand même des coopérations qui étaient peut-être plus difficiles que dans un temps plus serein. Mmh. Et donc, on s'est quand même réunis, on a tous été extrêmement actifs. Les centres sociaux, par exemple, 55 000 salariés quand même, hein, c'est une grosse machine. UNICEF, qui est venu aussi apporter son soutien. Culture du Cœur, qui s'occupe donc de l'accès à la culture pour les plus défavorisés. Vous avez aussi l'agence des quartiers qui s'occupe des médias et du journalisme dans les quartiers. Enfin, on s'est mis tous ensemble autour de la table et on a réussi à faire cette plateforme en un temps record et c'était pas simple.
Et c'était pas simple et vous allez nous en parler. Restez avec nous, Europe 1, il est 13h39.
Europe 1.
Quelles sont les solutions pour favoriser l'égalité des chances ? Eh bien, une plateforme qui permet de garder le lien avec les jeunes des quartiers à tout moment et des prépas aux écoles de commerce virtuelles. On en parle, à tout de suite.
Europe 1. La France bouge.
Nous,
Elisabeth Assayag.
Nous parlons égalité des chances dans La France bouge cet après-midi. Nous sommes toujours avec notre coach du jour, Pierre Pézziardi, avec Élise Dangean du service économie d'Europe 1. D'ailleurs, Élise, je me tourne vers vous. Les discriminations sur le marché du travail, c'est pas un mythe.
Absolument pas. Le Conseil d'analyse économique a parlé récemment d'un véritable fléau dans une note rendue en plein mouvement Black Lives Matter. À candidature équivalente, peut-on lire, la probabilité pour les Français blancs d'être invités à un entretien d'embauche est de 50 à 100 fois supérieure à celle de Français issus des minorités non blanches. Les experts du CAE ont donc formulé plusieurs propositions et notamment la création d'un indice diversité et inclusion pour valoriser les entreprises les plus inclusives.
Et nous sommes toujours avec François Deroux. François Deroux, vous êtes le directeur de l'association Les Petits Débrouillards et le porte-parole de ce projet très innovant, porte-parole du projet Des Blocs. C'est une plateforme de contenu destinée aux jeunes des quartiers prioritaires, parce que vous nous l'expliquiez avant la page de pub, c'est que pendant le confinement, tous ces jeunes n'ont pas pu se déplacer, ils ont été un petit peu coupés de tout ce que vous faisiez habituellement, et vous vous êtes dit, vous êtes réunis avec 17 associations pour répondre, pour combler ce déficit. On y trouve quoi sur cette plateforme, sur Des Blocs ?
Alors sur Des Blocs, vous allez avoir toutes les productions de nos réseaux, de nos associations. Alors par exemple, pour nous, les Petits Débrouillards, vous allez avoir des séances et techniques, ce qui nous anime beaucoup. Donc des activités à faire à la maison autour des sciences et des techniques, de la biodiversité, sur des cafés-débats, des rencontres avec des scientifiques, des chercheurs. Mais vous allez voir aussi, par exemple, de la magie avec les centres sociaux. Vous allez
Donc
avoir
on apprend plein de choses, mais de manière moins formelle qu'avec l'éducation nationale, qu'avec l'école.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le secteur, d'ailleurs, de l'éducation informelle. Mm-hmm. Et donc, on est complémentaire de l'éducation nationale et on s'inscrit dans des activités qui peuvent permettre aussi aux jeunes d'avoir des relations avec les connaissances et d'approfondir aussi leur savoir. Hein, donc, mais par des méthodes qui sont plus... ludique, plus détendu.
Que dit notre coach Pierre Pézziardi ?
Notre coach s'interroge parce qu'il se dit, il habite dans le 93, il est tout à fait conscient de des chiffres éloquents de décrochage et de la nécessité de vos actions. Il se dit que, par contre, les enfants, ils vont pas forcément aller directement sur un site et se dire ah bah tiens, je vais m'occuper une heure avec quelque chose de malin. Et donc il y a souvent un besoin de médiation culturelle ou de médiation. Et donc j'imagine que votre plateforme, au-delà de proposer du contenu brut, comme ça, elle permet à des professionnels ou à des accompagnateurs, des médiateurs de faire de l'animation.
Oui, c'est une très bonne remarque. Alors, on a commencé un peu dans cette urgence, mais on a bien conscience des défis qu'il faut qu'on relève, qui sont en fait de prendre cette plateforme comme un outil pour augmenter notre présence et non pas pour proposer une présence différente ou complètement déconnectée de la réalité. Mmh. Je rappelle que nos réseaux sont des réseaux de proximité, c'est-à-dire nous sommes dans les 1700 quartiers dont vous parliez, Police de Lévis, nous sommes implantés, nous vivons là. Donc nos réseaux sont dans ces quartiers. Donc ils vont pouvoir retrouver nos animateurs, nos médiateurs tous les jours.
En chair et en os.
Et donc c'est là où on va tisser cette relation de proximité, tout en disant vous pouvez aussi le soir, le week-end, les vacances, retrouver vos animateurs préférés, vos activités préférées sur Des Blocs.
Élise ?
J'imagine que les parents sont soulagés aussi. Il y a ce volet-là, les parents qui ont été dépassés pendant le confinement.
Alors les parents ont beaucoup cherché évidemment des façons de proposer des activités à leurs enfants. Ils ont bien vu que c'était compliqué de les avoir 8 heures par jour, voire 10 heures par jour. Et que évidemment, donc c'est un soutien aussi pour les parents. Mais les parents sont aussi souvent dans nos associations, dans les conseils d'administration, dans les conseils locaux. Donc
on est tous mobilisés pour pouvoir aider ces jeunes. Je rappelle que Des Blocs, cette plateforme, est destinée aux jeunes de 13 à 16 ans et des jeunes isolés aussi, hein, en particulier. On y trouve des contenus comme des sciences, du bricolage, des arts, de la culture générale, du sport. Hein, tout ça, c'est important de le préciser, c'est très très large. Mais quand un jeune de merci à vous, hein, François Deroux, un jeune de quartier prioritaire a envie de faire, par exemple, une école d'ingénieur, il se met à rêver d'intégrer une grande école d'ingénieur, comment faire pour accéder à une classe prépa ? Eh bien, pour répondre à cette question, vous avez créé Bismart-Edu. C'est vous, Daniela Tchana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Bismart-Edu. Et vous, tout ce projet, elle vient de votre histoire, de votre propre expérience, comme c'est souvent le cas, on le constate chaque jour à la France Bouge. Vous avez donc créé une plateforme pour accompagner ces jeunes qui rêvent de faire une école d'ingénieurs, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à une classe prépa.
Je dirais qu'il y a des jeunes qui ont du potentiel, des jeunes de région également, des jeunes de quartier, qui souhaitent intégrer les grandes écoles, mais ils se disent que ces écoles-là ne sont pas faites pour eux.
Ils s'autocensurent.
Oui, ils s'autocensurent. En fait, c'est triste, mais c'est vrai. Parce que quand on est en région, quand on est de quartier, on se dit peut-être que Polytechnique de Paris, l'école normale, c'est pas fait pour nous. Et on se dit, c'est fait pour ceux qui sont dans les meilleurs lycées parisiens. Pourtant, c'est pas le cas, mais c'est la réalité.
Alors vous les aidez à transformer cette autocensure en faisant en sorte que oui, c'est possible et tout est possible en se donnant les moyens.
Oui, en fait, on montre aux jeunes que tout est possible, ils peuvent intégrer ces écoles, même si autour d'eux, ils n'ont pas de modèle, de rôle modèle, ils peuvent être le premier les premiers à intégrer ces écoles et à en fait briser en fait cette autocensure en fait qu'on se fait quand on vient d'un certain milieu en gros.
Mais alors, oui, il y a l'autocensure, mais il y a aussi des freins évidents et réels, notamment le frein financier aussi. Quand on a envie de faire une classe prépa, c'est pas donné.
Il faut dire en fait que même si, le fait de vivre en fait, par exemple, sur Paris pour faire les meilleures classes préparatoires, c'est pas évident parce qu'on connaît que Paris c'est assez cher. Mmh. Et quand on est en région, on se dit n'étant pas dans ces écoles qui préparent à ces grandes écoles, on ne pourra pas réussir. Donc du coup, il y a ce premier frein qui est effectivement le frein financier, mais c'est pas le seul. Il y a aussi les freins géographiques, bien les limites géographiques qui nous empêchent en fait d'avoir l'accompagnement de qualité qu'il nous faut pour intégrer dans ces écoles.
Alors Daniela, pour répondre à tout ça, Bismarck-Edu, ça propose quoi?
Ça propose un accompagnement de qualité.
Mais c'est quoi, une plateforme sous quelle forme?
Complètement, c'est des cours en ligne, comme si on était dans une vraie salle de classe, parce qu'on retrouve tout ce qu'il y a dans une salle de classe, à savoir un tableau. On a un cahier, on a un stylo, donc on peut échanger avec des camarades. Le professeur, pendant un cours, peut envoyer l'élève au tableau, faire des exercices. On peut composer complètement à distance et on retrouve en fait, en plus du cours en présentiel, on a en fait des cours qui nous permettent de faire de l'auto-apprentissage, je peux dire personnalisé, parce que derrière, en fait, on met en place pas mal d'outils pédagogie pour pouvoir accompagner l'étudiant vraiment à apprendre à son rythme et selon ses compétences.
Et ça existe depuis 2017. Hein. Vous êtes à Amiens, vous avez plus de 25 profs qui travaillent avec vous. Quel est le recul? Vous avez vu des intégrations dans des écoles prestigieuses? Quels sont les retours?
Donc déjà, la première année, on s'est dit le premier frein, c'est de pouvoir montrer à ces jeunes de région, bien de quartier, qui peuvent avoir des mentions très bien au bac. Donc, sur la première promo que nous avons accompagnée, nous avons eu 80% de mentions. Bien et très bien. Et ça, c'était un exploit pour nous. On était très fiers, sachant qu'en 2018, on est monté à 88%. Donc, cette année, ça devait être une année où on s'attendait à avoir
100%, mais il n'y a rien.
100%, ouais. Mais il y a eu la crise sanitaire. Mais on a prouvé à ces jeunes qu'ils pouvaient rêver. Parce que plusieurs d'entre eux, quand ils s'inscrivent sur la plateforme, on leur dit « vous aurez la mention très bien ». Non, non, non. Ils se disent « c'est pas fait pour eux une mention très bien ». Mais en fin de compte, ils finissent avec des 20 en maths. Et ça, c'est vraiment une fierté pour nous.
Ça peut l'être. Pierre Pézierdi.
Donc si je peux conseiller ça à mes concitoyens de la ville des Lilas dans le 93, ça coûte combien pour des gens qui auraient le mordant, donc si je comprends bien le mordant, mais qui ont un horizon un peu barré en se disant oui mais c'est pas pour moi. Donc avoir ce soutien scolaire et cette ambition mention très bien au bac en première et terminale, j'imagine ça coûte combien?
C'est 35 € de l'heure.
Ouais.
Ça c'est pour ceux qui ont les moyens de financer. Mais il faut comprendre que des jeunes, un peu comme moi, qui n'avions pas les moyens de payer ces coups solaires, on a pensé à eux. Et donc, du coup, on a décidé de travailler avec des collectivités, des fondations, des associations.
Pour des aides.
Pour les aides, pour que ces jeunes qui n'ont pas les moyens puissent également avoir un tel accompagnement.
Donc, je peux proposer ça à des gamins très engagés, mais qui n'en ont pas les moyens.
Exactement.
Ok, merci. Oui.
Ça fait rêver, hein, Élise?
Absolument, ça fait rêver. Et d'autant que le diplôme, quand même, préserve du chômage, on le voit assez nettement, donc félicitations.
Justement, Élise, dans les quartiers, hein, on voit depuis le début de l'émission, il y a énormément d'initiatives pour s'organiser là, après cette crise sanitaire et s'en sortir hein, pour tous ces jeunes de quartier.
Beaucoup de choses, notamment pour faire face au chômage, on vient d'en parler, l'association Diversity Days, par exemple, lance aujourd'hui son programme Déclic numérique, un programme de retour,
sur Europe 1.
Voilà, absolument, qui est venu chez nous, un programme de retour donc rapide vers l'emploi et qui mise sur le numérique, c'est 100% en ligne. Il y a un bilan de compétences, des formations, du coaching, c'est très varié. Et la première édition pilote est lancée donc aujourd'hui, je le disais, en région Occitanie et devrait s'étendre dans les mois à venir.
On leur souhaite bonne chance aussi. Absolument. À Diversity Days. Prouver aux jeunes qu'ils peuvent rêver, c'est ce que vous venez de nous dire. Daniela Tchana, vous êtes la fondatrice de la start-up Bismarck.edu. Vous aussi, vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait du bien, hein. Vous nous avez fait donner du baume au cœur. Merci aussi à vous, François Desroux, le directeur de l'association Les Petits Débrouillards et le porte-parole du projet des Blocs Europe 1. Il est 13h52.
Europe 1.
Vous avez une entreprise, vous rencontrez des difficultés, l'équipe de la France Bouge est là, a pour vous avec CCI France. Et c'est le coup de main d'Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est le moment de retrouver Nathalie Carré de CCI France. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Vous épluchez chaque jour les dossiers de nos entrepreneurs qui galèrent en ce moment. Vous donnez des conseils, des directions à prendre. Et aujourd'hui, c'est la co-créatrice de l'Escape Game, Odyssey Adventure. Elle est située à Carcassonne. Bonjour Marine Taureau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi membre du collectif des créateurs d'entreprises en danger. Et vous vous sentez en danger en ce moment avec votre Escape Game?
Tout à fait, oui. C'est comme on n'a pas de chiffre d'affaires comparatif, on n'a pas le droit aux aides de l'État.
Ouais, donc et du coup, c'est un petit...
Non, pour l'instant, on n'a le droit à rien du tout.
Vous existez depuis la fin de l'année dernière, depuis novembre 2019. Et, et donc, un escape game, évidemment, que vous avez souffert de la crise parce que c'est dans un milieu clos et on se touche. Donc forcément, ça pose problème. De quoi avez-vous besoin et comment pouvons-nous vous aider, Marine?
Alors, ma question, elle est assez spécifique, c'est-à-dire que donc nous n'avons pas le droit au fonds de solidarité jusqu'à présent, mais nous avons fait un financement participatif pour pallier, on va dire, aux fermetures administratives pendant la crise. Et donc, c'était pour savoir si, avec ce financement participatif qui a généré du chiffre d'affaires au mois de juin, ça pouvait m'ouvrir le droit au fonds de solidarité, sachant qu'en tant qu'escape, donc, mon code NAF me permet de bénéficier du plan tourisme. Et donc, comment je dois le calculer? Et est-ce que je dois multiplier ce chiffre d'affaires par 3 parce qu'on a touché les sous le 10 juin? Et voilà.
Donc, alors, pour rappel, hein, Nathalie, avant de lui répondre, le code NAF, vous allez rappeler à tout le monde ce que c'est l'activité de l'entreprise.
C'est le code d'activité.
Et c'est là
Elisabeth,
où on peut trouver...
je pense que c'est bon, vous allez me remplacer.
Et là, c'est voilà. Là où on peut trouver des solutions. Je vous laisse parler, Nathalie.
Exactement. Donc désolé, en fait, le fonds de solidarité, en fait, le fait d'avoir fait du chiffre d'affaires, c'était pas une bonne idée. Mais vous avez eu raison de le faire parce que vous auriez pu avoir 1 500 € éventuellement, et là vous avez eu 4 200 € de Ulule. Donc c'était mieux, puisqu'en fait, le fait d'avoir fermé, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait une baisse de chiffre d'affaires. Or vous avez fait zéro et vous avez fait plus 4 200. Donc en fait, c'est pas possible. Mais vous allez, dès qu'on raccroche, vous précipiter sur l'autre aide financière qui est réservée aux travailleurs indépendants, donc, puisque vous ne pouvez pas toucher accéder au fonds de solidarité. Sauf que le formulaire, fallait renvoyer son formulaire hier au plus tard. Donc il va falloir négocier parce que vous allez dépasser de 24 heures pour voir si vous pouvez toucher cette aide. Donc voilà, c'est 24 heures trop tard, mais c'est possible. Vous avez quand même le droit à une exonération de cotisation sociale. Ça, c'est automatique, vous n'avez rien à faire, puisque effectivement, vous êtes dans le plan tourisme. Vous avez le droit à une subvention. Vous avez dû acheter du matériel de protection pour ouvrir votre escape game. Donc je pense que vous avez dû acheter du gel, etc. Donc vous avez le droit à une subvention pour acheter ce matériel et un report des échéances de crédit. Alors, c'est pas automatique, mais les banques peuvent reporter sur 12 mois parce que vous faites partie du plan tourisme. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est facile à mobiliser. Donc allez-y. En revanche, deuxième point qui me paraît beaucoup plus important, c'est faire rentrer des clients. Vous êtes 3 associés. Moi, je mettrais un temps plein sur la com pour faire rentrer des clients et prouver que ça marche parce qu'on va aller chercher ensuite du crédit. Donc faites des vidéos, montrez des exemples, donnez envie de venir chez vous.
Vous insistez souvent, j'ai remarqué Nathalie, pour les personnes en difficulté, de montrer
mais c'est ça,
ce qu'ils font, une vitrine, les réseaux
exactement,
sociaux, tout ça, il faut
mais
les utiliser
oui,
en ce moment.
Mais oui, et puis profitez, faites une offre pour les lycéens qui ont eu leur bac ou leur bac français, d'autant qu'ils ont déjà la réponse puisqu'il y a eu le contrôle continu. Créez une offre famille en soirée avec un partenariat avec des hôtels du coin, des restaurants, etc. Faites des partenariats avec les boutiques de jeux, les boutiques de vente de figurines qui sont dans cet esprit escape game pour faire entrer des clients. En même temps que ça, vous mettez un deuxième temps plein, un deuxième associé au boulot pour augmenter le capital de l'entreprise. Il y a des réductions d'impôts en plus. Objectif, c'est augmenter vos fonds propres et montrer que le marché croit à votre projet. Donc les proches, les donateurs Ulule, les clients, faites contribuer même 100 euros. Mais l'idée, c'est de prouver ensuite, étape 3, pour aller décrocher le PGE, pour aller décrocher un crédit classique auprès de votre banque. Il faut prouver que le marché croit en votre projet. Donc, il faut d'abord apporter la preuve et ensuite prendre cette preuve-là et l'apporter à vos financeurs pour aller décrocher soit le PGE ou l'avance remboursable si le PGE vous est refusé, soit aller chercher un crédit. Il y a eu effectivement, et continuez à vous battre avec votre collectif, il y a eu des annonces pour les très jeunes entreprises. Le Premier ministre l'a dit à plusieurs reprises, mais pour l'instant, On n'a pas encore de décret ni d'ordonnance.
Donc il faut en attendant, faire un petit peu preuve de patience parce que les choses bougent chaque jour. Hein,
et
ça
oui,
évolue,
chaque jour. Donc en attendant, en tout cas, vous êtes trois. Il y en a un qui prépare l'ouverture, il y en a un qui fait de la com, il y en a un qui va chercher des associés. Et vous allez, voilà, vous allez surmonter cette épreuve sans problème.
On va tenter la com, on en fait déjà, je suis déjà à temps plein sur la com et l'administratif, c'est déjà le cas en fait.
Les entrepreneurs c'est ça hein, Pierre. Hein.
C'est pas assez. Non, et sachez une dernière chose, la France est un pays colbertiste qui adore les règlements, les cases, les formulaires CERFA, et les, vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, vous êtes dedans,
mais qui n'aime rien
moins également que les exceptions à ces règlements qui fabriquent autant d'exceptions. Et donc, suivez bien le conseil qui vous est donné de vous rapprocher. Derrière chaque formulaire CERFA, il y a un élu, il y a un cadre de l'administration. Et donc, rentrez en contact avec ces gens-là.
Merci Marine Taureau. J'espère que vous allez appliquer tous les bons conseils de Nathalie et Pierre. D'ailleurs, Nathalie va tout vous mettre sur mail, hein, hors antenne, comme ça tout sera très très clair. Merci à vous, c'est la fin de votre émission. Merci Nathalie Carré de CCI France d'avoir donné super conseils. Merci Pierre Pézziardi. À demain. Élise Dangean, merci. Merci à Laetitia Farine et Charlotte Barrican qui m'ont aidé à préparer cette émission. À demain, nous parlerons des seniors, comment les aider à s'occuper cet été. Et là aussi, il y a des tonnes d'initiatives. À demain. Europe 1, il est 14h.